à tous. Le Guerre et paix de Claudio Magris, Plume, cerveau, moi, je, île européen, l'essayiste et romancier italien publie ces jours-ci aux éditions de L'Arpenteur, classé sans suite, un livre métaphore sur la guerre, la mémoire, qui nous perd dans les détails d'un musée imaginaire, une quête de vérité comme un droit de suite à l'histoire. Professeur de littérature allemande, il cite Goethe, Musil ou Thomas Mann, a traduit Kleist et Schnitzler, figure de la Mitteleuropa, enfant de la guerre, né en 39 à Trieste, dans l'ancien empire austro-hongrois, devenu ville frontière italienne, l'auteur de Danube et Microcosme est notre invité en deux parties à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Claudio Magris.
Bonjour.
Est-ce que, comme votre narrateur, vous parlez de vous à la troisième personne du singulier ? Ou est-ce que vous employez le « je » pour parler, exprimer une idée ?
Oui, c'est un grand problème qui concerne toute la structure de ces livres, parce que ces protagonistes, qui peut-être n'est pas le véritable protagoniste du livre, je crois que le personnage qui est vraiment plus important, c'est Louisa, la femme qui est chargée, après la mort de cette grandiose maniaque, d'aménager et de bâtir ce musée. Et le problème de comment l'appeler et de comment cet homme s'appelle, c'est la tentative à éliminer les premiers pronoms personnels, considérés comme quelque chose de faux, comme une prépotence, et comme quelque chose de faux, ou comme il dit, quelque chose d'indécent. Dans beaucoup de mes livres, j'ai pris le modèle d'un homme qui a vraiment existé, même si j'ai après complètement inventé son histoire et changé. Et un homme qui était vraiment, c'était un bizarre triestin, qui avait consacré sa vie à un rêve complètement folle de bâtir un musée de la guerre qui aurait dû montrer l'horreur, le gouffre, l'abîme, les achviandes de l'histoire universelle, sa force anéantissante, comme disait Nietzsche, pour convertir tout à la paix. Et il avait vraiment détruit sa vie et la vie de sa famille pour acheter des chars, des mitrailleuses ou qui se faisaient à la fin de la guerre donner par les Allemands fugitifs et par les Américains victorieux qui arrivaient à Trieste, etc. Et cet homme a aussi eu une étrange mort. Il dormait dans un cercueil, dans un pavillon parmi les dragueurs de mines, les saguets, les cimetières, etc. Et une nuit, il y a eu un incendie qui a brûlé tout. Peut-être un incendie d'origine criminelle. Il y avait aussi un procès sans aucun résultat. Mais ce qui m'intéressait, vous devez m'interrompre si je parle trop. Parce que
je n'ose pas, mais je vais y arriver.
Le livre est compliqué. Alors, ce qui m'intéressait, et c'est là l'invention, premièrement, la manie. Peut-être parce que moi-même, j'ai beaucoup à faire avec la manie. La manie, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. D'un côté, la manie est quelque chose de mortel, de stérile, qui dessèche la vie, qui détruit chaque désir. Les maniaques font peu l'amour d'un ancien traité du Moyen-Âge. Quelque chose de stérile, la prétention de recueillir l'infini dans des collections mortes. De l'autre côté, la manie, c'est aussi une aide, comme une cuirasse qui protège de la dévastation de la vie, quelque chose qui ne trahit jamais. perché la foi en Dieu peut vaciller à Auschwitz, un amour peut finir, mais les timbres ou les armes rassemblées par un maniaque sont toujours là, fidèles dans leur morte et bête insignifiante. Mais la manie, c'est une autre chose. C'est aussi la divine manie de la poésie pour les Grecs, c'est-à-dire une tension vers quelque chose d'absolu. Et là, c'est l'invention, parce qu'au centre du labyrinthe de la vie de ces personnages, il y a un minotaure, c'est-à-dire la rizière de Saint-Saba. La rizière était une ancienne usine encore de l'époque de l'Empire austro-hongrois, quand Trieste faisait partie de l'Empire, où on travaillait les riz, et où les nazis, pendant les deux dernières années de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis avaient occupé Trieste, et ils avaient installé dans la rizière un véritable petit camp d'extermination avec un petit four crématoire, l'unique existant en Italie, dans l'Italie occupée par les nazis, et où beaucoup de gens étaient ou envoyés au grand camp d'extermination en Allemagne ou assassinés sur place. Et après brûlés, et les os, les cendres étaient jetées dans la mer proche. Et alors, une chose qui m'avait toujours frappé, c'est qu'après la fin de la guerre, on n'a jamais, plusieurs années, parlé de la rizière. Moi-même, je ne savais pas. Je savais très peu. Même dans les milieux antifascistes, on savait tout sur les otages pendus et fusillés par les nazis, sur les terribles tortures de la Villa Triste. Alors, on n'avait absolument pas caché la cruauté, les crimes de l'occupation nazie. Mais, sur la rizière, silence. Une amputation de la mémoire collective, comme l'hippocampe coupé. Moi-même, que j'ai grandi dans un milieu antifasciste, que je me suis toujours occupé, je ne savais très peu. Et alors, aujourd'hui, il y a des livres, des historiens, donc, est devenu musée national, etc. Mais pourquoi ce silence? Et alors, la connexion, c'est que cet homme fou avait écrit, et ça c'est aussi vrai, des carnets, centaines de carnets pleins de choses absolument, oui, parfois intéressantes, mais parfois absolument inutiles, surtout des choses. Et c'est vrai que beaucoup de ces carnets sont disparus. Et peut-être que ces carnets ont été, comment se dit, réquisites. Tenu secret par l'autorité et par le gouvernement militaire allié qui administrait Trieste jusqu'à 1954, et peut-être qu'ils sont encore là, certainement il y a des documents sur cette période à Londres encore secrets.
Mais c'est l'hypothèse que vous avez dans ce livre, c'est qu'il aurait peut-être recopié sur ses carnets des listes de noms, des noms de ceux qui auraient collaboré durant cette période-là, des noms qui étaient recopiés sur les murs de la rizière par les personnes qui étaient
couverts avec à la chaux.
Et couverts,
oui,
à la chaux après.
Oui, et ce n'est pas. Alors l'hypothèse, c'est que ce ne sont pas des crimes, ce ne sont pas les noms de bourreaux, parce que les noms de bourreaux sont très connus, ni des victimes, mais peut-être de quelqu'un de la bonne société qui venait en visite ou qui dînait les soirs avec les bourreaux, c'est-à-dire de gens honnêtes avec pas des taches de sang sur les mains, mais aucun problème à serrer des mains avec taches de sang. Et alors là, c'est l'histoire de la tentative de chercher. Et là, c'est vraiment une manie qui a quelque chose de très différent de la manie stérile de recueillir des armes et ça. Et pour moi, c'était protagoniste, comme j'ai dit, Louisa, la femme chargée de continuer après la mort tragique de l'inventeur, qui avait nié l'existence de la mort. Il disait que la mort, c'était seulement quelque chose d'illusoire. Il disait, c'est comme la fin d'un film, tout recommence. Et ça, c'était l'horreur, non, que tout recommence. La guerre n'est pas finie, mais recommence comme un film sur la guerre.
Et recommence. Cette mort, il l'appelle l'inverseur, hein, d'ailleurs.
L'inverseur, ouais. Certes. Non, mais, et, alors, pour moi, la musée, c'est la structure même du roman. Alors, et dans mon musée, le musée imaginaire, il y a pas seulement des chars, de la guerre des mines, des choses recueillies et décrites avec une précision maniaque presque comme celle de mon personnage. Mais il y a aussi des acides que certains insectes se servent dans la guerre contre les autres insectes.
Il y a les nouvelles
insectes.
Formes de guerre hein, qui sont pas si faciles à exposer aujourd'hui dans un musée.
Oui, oui. Mm. Et là, c'est un peu comme l'idée de cette la guerre comme hachoir universel. Et les armes sont comme une lampe d'Aladin qui raconte l'histoire. La lampe d'Aladin, si on la frottait, là apparaissaient les djinns et jaillit une histoire. Alors, par exemple, d'une hache des Indiens du Paraguay, jaillit l'histoire de Cherbuich, l'Indien des forêts incendiées du Paraguay qui arrive dans la Prague de Kafka, d'un fusil MP44, jaillit l'histoire du soldat Chimek, un soldat autrichien allemand fusillé par les nazis dans la Pologne occupée par les nazis, peut-être parce qu'il était un héros qui s'est refusé de tirer sur des otages inermes, peut-être tout simplement parce qu'il avait cherché de fuir, mais c'est aussi l'histoire des journalistes qui a été les premiers à découvrir cette histoire et à bâtir ce monument de cette sanctification qui a transformé les soldats Chimek dans un saint, dans un héros, symbole de l'amour, de la liberté, de la patrie, héros pour Solidarność dans la Pologne. Et en même temps, quand le chercheur est aussi remercié pour ça, il découvre d'autres traces et à peu qui vont détruire ces monuments. Ou de notre, mais surtout il y a un objet sans lequel je n'aurais pas écrit le livre. Un objet que j'ai pas inventé, mais que c'est l'invention de le mettre là, non? Parce que tout le musée, c'est comme un parcours, on a défini le livre une mille et une nuits du mal, mais avec plus qu'une seule Scheherazade.
Oui, c'est un roman à tiroir et c'est aussi un roman labyrinthique. Hein, vous l'avez construit comme ce musée que vous avez imaginé. Ce roman, c'est un roman excessif, assez insensé. Et comme cette exposition, vous tentez de reconstituer des salles, des récits qui se croisent à la fois celui de cet inventeur, de ce concepteur, de ce musée génial, celui de Louisa Brooks qui est chargée 10 ans après de reconstituer une exposition en mémoire de cet homme aussi et des récits parallèles qui viennent ponctuer ces deux vies, celles que nous racontent les armes, celles qui nous racontent notre histoire collective à nous, Claudio Magris. Je récapitule et puis je vous pose une ou deux questions si vous le voulez bien. Pour classer sans suite donc votre roman, vous vous êtes inspiré de ce professeur Diego Enriquez, triestin cultivé, collectionneur d'armes et de matériel de guerre. Il avait l'idée d'ouvrir ce musée qui regorgerait tellement de violence en exposant la mort sans phare qu'il en deviendrait un instrument, un lieu de paix. C'était un créateur fou, passionné, un peu collant, comme vous le décrivez, lui-même débordant et débordé par sa matière. Cet homme que vous ne nommez pas dans le roman va mourir dans un incendie entouré d'une partie de ses objets et de ses notes. On ne sait pas si c'était un incendie criminel, accidentel, intentionnel, cause indéterminée. L'affaire sera classée sans suite et c'est peut-être de cette idée-là que le titre de votre roman, Claudio Magris, s'est inspiré. Alors vous lui inventez une suite à travers d'autres protagonistes, une autre surtout, Louisa Brooks, chargée donc de monter cette exposition et de tenter d'imaginer, de reconcevoir sur ce musée de la guerre à partir des éléments dont elle dispose. Il avait une idée assez supérieure hein, qui l'animait, cet homme. Cette idée de paix derrière la guerre, vous l'évoquiez. Il allait chercher sous la mer, dans les profondeurs, dans les égouts, dans les galeries, pour tenter de comprendre aussi l'origine de tout cela. L'origine, c'est de la boue et du sang, écrivez-vous. J'aimerais comprendre votre rapport à la guerre, à vous, Claudio Magris. C'est pas la première fois que vous l'évoquez, la guerre. Déjà dans votre premier roman, Enquête sur un sabre, inspiré d'une histoire que vous avez vécue enfant à la fin de la guerre. Vous êtes né en 1939 à Trieste. C'est quand même une date assez symbolique et assez parlante. Quelle expérience personnelle, quel vécu de la guerre vous avez-vous, Claudio Magris?
Oui, est-ce que je peux dire, avant de répondre, de chercher à répondre à votre question qui est centrale, quelque chose sur le personnage de Louisa. Louisa, ce personnage inventé, j'imagine qu'elle soit fille d'une juive triestine, victime de la Shoah et aussi victime d'une histoire très obscure, peut-être d'une culpabilité de sa mère, là, et d'un sergent afro-américain arrivé avec les alliés à Trieste à la fin de la guerre au début du mai 40-45. C'est-à-dire, Louisa est l'héritière de deux exils, des deux peuples qui ont dû traverser le désert et la mer, la Shoah et la traite, des deux peuples qui n'ont pas pu chanter les chansons de Sion en terre étrangère, comme dit le psaume, mais qui les ont chantées. Et là, ça m'a amené à travers l'histoire de son père, là, vers d'autres horizons dans les Caraïbes, qui jouent aussi un rôle central en ce qui concerne l'histoire de notre personnage, la découverte. J'ai aussi étudié un peu le créole pour apprendre un peu le langage des marrons, des esclaves rebelles qui partaient, parce que le musée, c'était comme la structure, comme vous avez dit, du roman, c'était comme un poème du Moyen-Âge où chanté dans la place, où l'histoire, le fil central, était de temps en temps interrompu par des auteurs. Histoire des paladins qui suivaient des dames fugitives ou qui allaient sur la ligne, mais pour retourner après dans l'histoire principale. Et ce rôle de la rencontre, de la difficulté entre plusieurs peuples, disons que l'élément noir de la culture noire joue un rôle central en ce qui concerne Louisa et une autre Louisa, Louisa du passé. Pour répondre à votre question, oui, la guerre, je commence avec la fin. Il y a un chapitre dans le livre où on raconte l'insurrection de Trieste le 30 avril 45. Une tragique libération qui était une lutte de tous contre tous, parce que Trieste était une situation incroyable. Alors il y avait les partisans communistes et les partisans démocrates, italiens et slaves, qui combattaient contre les fascistes et les nazis. Il y avait les partisans communistes qui combattaient aussi contre les partisans italiens démocrates. Il y avait des fascistes qui étaient bien sûr alliés des nazis, ma des groupes de fascistes ont combattu contre les nazis. Il y avait l'armée, titoïste, qui avait libéré la Yougoslavie, parce que c'est l'unique pays qui s'est libéré tout seul, no? Dans l'Europe orientale, par les Russes, et qui combattait les nazis, mais aussi les partisans italiens antifascistes, aussi perché a ce moment-là, où Trieste était un peu le but d'une annexion à la Yougoslavie, ou le retour à l'Italie, etc., et bien sûr, les antifascisti italiens étaient les plus, qui avaient plus d'autorité pour représenter l'Italie, pas l'Italie fasciste, mais l'Italie démocrate. Et je me souviens très bien. J'ai décrit cette chose comme un cancer qu'on ne peut pas opérer, et la narration devient comme un glioblastome, la narration comme résonance magnétique. Et en ce qui me concerne, j'ai des souvenirs de violence, un sentiment de peur. J'ai vu par exemple un corps mort, je suis né en 39, alors j'avais 6 ans. Aussi un sentiment de peur de la violence dans les années, premières 2 années plus ou moins, immédiatement successives à la guerre. Et là, c'était une chose qui à ce moment-là me donnait l'impression très différent de l'impression que j'avais eu un an avant, quand j'étais à Udine, occupé par les nazis et leurs alliés cosaques qui sont finis tragiquement. Là, la guerre avait quelque chose qui ne me faisait pas peur, disons. Parce que, comme j'ai eu la chance de n'avoir jamais vu les nazis ou les cosaques directement dans un combat. Et à Trieste, il avait vraiment comme si, la guerre très proche, comme s'il était en l'air. Alors, une peur physique, disons, que je n'avais pas à Udine. Et aussi l'absurdité, non, de la situation. Et je crois que là, c'est un moment, parce que je suis très intéressé à la relation qu'il y a entre histoire avec grande H et les histoires, nos histoires, sur la possibilité de situer les unes dans l'autre.
Et on là. Comprend ce rapport de complicité presque que vous pouvez avoir avec le narrateur, de classer sans suite votre roman, Claudio Magris, qui paraît aux éditions de l'Arpenteur. Le narrateur, lui, ne veut pas envisager la guerre sous l'angle de la fatalité. Il désactive l'histoire, quelque part, en désactivant la fonction meurtrière de ses armes qu'il entend exposer, en en faisant des simples objets d'exposition. Il a des propos, une relation un peu ambiguë à la guerre, à laquelle il semble prêter des vertus paradoxales, des qualités humaines, la bonté. Et ça nous interroge, effectivement, à la lecture de votre livre, Claudio Magris. La guerre, écrivez-vous, est devenue humaine parce qu'elle épargne aux individus d'être des protagonistes, des responsables et donc des victimes. Les bombes atomiques et les gaz de combat ne visent pas un individu en particulier, ils ne savent même pas ce que c'est. Ailleurs, vous écrivez bonté, providence de la machine qui remplace l'homme en le sauvant plutôt qu'en le détruisant, comme dans tant d'autres récits stupide, Claudio Magris.
Ah, oui, bien sûr, là, ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas moi que, comme c'est moi qui écris les articles politiques sur le Corriere della Sera, ou je ne dirais jamais ça. Mais là, j'ai cherché à comprendre la terrible fascination de la guerre, malgré tout. Bien sûr, sans la prouver, mais il faut comprendre, et il faut savoir qu'il y a parfois comme un mécanisme qui n'est pas seulement un mécanisme politique de calcul, mais qui est aussi un mécanisme, c'est comme quelque chose de physique qu'il faut connaître pour pouvoir lui résister. Et c'est ça je suis absolument, enfin, mon personnage, le collectionneur, a certainement un amour pour la paix, mais il est certainement fasciné pour la guerre, par la guerre, bien sûr. Et là, cette ambiguïté, et il faut regarder entre l'abîme et l'obscurité de ça. Et je crois que la narration pourra, qui est aujourd'hui, depuis un siècle, très difficile de raconter l'histoire qui a malheureusement à faire continuellement avec la guerre. Et là, le grand problème, c'est de raconter l'histoire. Et je crois que pour raconter l'histoire avec la grande H, et pour chercher à retrouver ce fil rouge qui met la connexion entre la petite histoire de chacun de nous et l'histoire avec la grande H, un roman doit s'enfoncer dans l'abîme, dans les gouffres, dans les maelstroms qui semblent détruire chaque possibilité de retrouver cette unité, de l'essence de la vie. Vous savez, c'est ça que est très difficile, mais c'est une chose grandiose pour les romans contemporains. Un grand écrivain italien, La Capria, a dit que les chefs-d'œuvre du roman du XXe siècle sont chefs-d'œuvre ratés. Mais il ne voulait pas absolument nier la grandeur de Proust, de Faulkner, de Svevo, Joyce, etc. Mais dire que ces auteurs ont dû prendre sur soi-même pour chercher. Peut-être même pas comprendre, mais chercher de comprendre, apprendre dans leur même structure la difficulté, parfois l'impossibilité de comprendre, d'organiser, de donner un ordre. L'écrivain du XIXe siècle avait encore la possibilité de situer la petite histoire de chacun de nous dans la grande histoire. Il pouvait utiliser la même langue. Victor Hugo, la langue de Victor Hugo dans Les Misérables est presque la même dans ses écrits de contre Napoléon III. Kafka n'aurait pas pu écrire un noble, humain message de solidarité aux mineurs de la Silésie avec le langage de la métamorphose. force.
Et c'est pour ça que dans Classé sans suite, Claudio Magris, vous nous faites vraiment regarder l'histoire autrement. Vous comparez l'histoire à une multitude de fictions, de récits rapportés et déformés. Vous la comparez aussi à une tumeur. Oui. La tumeur dans l'histoire est d'abord dans la tête, écrivez-vous. Les manuels d'histoire, simple compte-rendu de scanner et d'IRM. Vous comparez l'histoire, vous le dites même, vous l'écrivez clairement, elle est morte, immobile, arrêtée, une pierre, une géode. Et pourtant, à l'intérieur, tout grouille, écoule, des milliards de corpuscules à une folle et inutile vitesse. Prix Goncourt 2011 pour l'art français de la guerre. Je vous propose d'écouter juste ces mots d'Alexis Génie qui s'interrogeaient pourquoi personne n'est en mesure de raconter l'histoire.
J'ai pu écrire un roman qu'on a pu trouver bien documenté, alors que je n'ai pas passé des journées entières dans des bibliothèques difficiles d'accès. J'ai utilisé ce qui est en accès libre. Je ne suis pas historien. Je suis un romancier qui voulait écrire quelque chose sur les guerres coloniales. J'ai utilisé ce qui était autour de moi, ce qui était totalement accessible. Et autour de nous, de façon totalement accessible, on trouve toute l'histoire, mais simplement, personne n'est en mesure de la raconter. Je me suis rendu compte, en fait, en le faisant, qu'on n'arrive pas à raconter cette histoire. Et cette histoire, elle est prise en charge par des mémoires douloureuses, des mémoires fragmentées. Et ces mémoires douloureuses sont dangereuses, hein, comme le dit ce livre. Et ça, c'est terrible parce que cet événement qui a eu lieu il y a 50 ans continue de vivre souterrainement, continue à créer des failles dans notre société et continue à nous empêcher de nous voir un avenir.
Pourquoi sommes-nous si ignorants de notre histoire? Pourquoi personne n'est en mesure de raconter l'histoire? Vous y répondez, Claudio Magris, dans ce livre. Toute histoire, tout texte, toute vie est un palimpseste, un support que l'on a gratté pour y écrire de nouveau. C'est toujours la même histoire, mais superposée à la précédente. Une écriture qui en recouvre d'autres, avec des corrections difficilement lisibles, mais qui ne les efface pas, et qui est elle aussi destinée à être retouchée et réécrite, mais non annulée, passant de bouche en bouche et de page en page. L'histoire est en mouvement perpétuel.
Et oui, je suis très 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 reconnaissant pour ce que j'écoutais, que je partage complètement. Et en ce qui concerne la superfection, deux exemples. Il y a ce sentiment de palimpseste, je l'ai eu, et c'était vraiment peut-être l'émotion plus intense des recherches, j'ai fait beaucoup de recherches. Et c'était une recherche sur une femme noire du XVIe siècle, Louise de Navarrete, esclave libérée, qui vivait à Porto Rico, la femme d'un blanc, parce que les lois espagnoles, il faut le dire, même dans ces temps féroces, permettaient les mariages entre blancs et noirs, ce qui aux États-Unis est devenu possible seulement plusieurs années après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire 4 ou 5 siècles après. Bon. Et alors, cette Louise qui a été enlevée par les Carinagos, les Caraïbes, 5 ans durant, épouse, esclave du chef, peut-être complice des incursions, et après elle s'enfuit et retourne chez elle, elle est processée par l'Inquisition, par suspect de sorcellerie. Alors, le bûcher était généreusement infligé. Cette femme doit avoir été géniale parce qu'elle a réussi à déplacer les questions et à la fin, elle est pas seulement déclarée innocente, mais mujer de raison, respectée, retourne à la famille. Bon. Alors, j'ai lu les protocoles de cet interrogatoire qui se trouve dans l'archive des Indes à Séville. C'est-à-dire, je ne lis presque rien, parce que, pas pour des raisons linguistiques, mais ces textes ont été microfilmés quand l'œuvre abrasive du temps avait déjà presque effacé. Et alors, je lisais quelques lignes, quelques mots, et alors j'avais l'impression comme de voir un signe, des traits, une bouche, un regard. Et alors j'ai senti que la littérature est aussi une tentative de redonner à ce visage disparu la vie qui lui avait été arrachée.
Et c'est tout le fil de votre œuvre, Claudio Magris, auteur de Classé sans suite ce mois-ci, qui vient d'être traduit en France. Toute l'histoire de l'humanité est un curetage de la conscience et surtout de la conscience de ce qui disparaît, de ce qui a disparu, écrivez-vous aussi dans ce roman. Écrire pour lutter contre l'oubli, écrire aussi pour rendre le monde sensible. Vous restez avec nous, Claudio Magris, on vous retrouve après le journal de Camille Magnard.
Certo.
Ne bougez pas.
Merci.